Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Avec Christophe Cessieux, Sarah Pilkowski, Marc Madio et Pascal Duprat qui doit faire des squats pendant les flash info, non, un peu de gainage. C'est ça, non, Pascal? Plus ou moins.
Tout, non, pas pour l'instant. Non, je suis très studieux, je suis à votre écoute. Oui, j'ai envie d'en débattre, là. Je suis curieux sur le prochain sujet.
Ouais, tu gardes, on se mettait un peu sur la gueule, Pascal, là. Ça fait longtemps.
Attends, je vais pas me battre avec tout le monde, quand même. J'ai déjà le grand.
Il a déjà Fred Bates, ça, oui. Ou quoi?
Mais on se mettait sur la gueule à mots mouchetés, évidemment.
Bien sûr. Non, mais sur le prochain sujet, ça va me passionner, je le sais d'avance.
Et en plus, c'est sur le ring dans quelques instants. Donc tout est là. Dans un instant, les GG aussi prennent votre zapette et vous disent ce qu'il ne faut absolument pas manquer ce week-end. En fin d'émission, je vous rappelle, participez avec vos GG au jeu. Remportez votre PC portable Altic, marque française d'ordinateur installée à Nantes avec un vrai ancrage local. Leur mission, simplifier l'achat d'un PC pour les personnes non initiées à l'informatique. 32-16, touche 4,
c'est
vous envoyez sport au 7-32-16, sport au 7-32-16. Il dit non de la tête.
Ouais, mais il dit oui dans
alors
son cerveau.
Sait, alors qu'il sait. Mais d'abord, le grand espoir du cyclisme français est déjà de retour ce samedi.
RMC. Le ring des GG.
Premier groupe des autres, un beau groupe composé de Remco Evenepoel, Paul Sexas, Juan Ayuso l'espagnol et Christian Scaroni l'italien. Faire partie pour Paul Sexas, il dit au public de s'écarter. Hein,
allez, Paul Sexas, il prend quelques mètres. Paul Sexas,
3 mètres
balance. L'italien est à bout de souffle. Paul Sexas doit aller chercher cette médaille. Allez, c'est maintenant dans le bal d'enfer.
Il est ému, Paul Sexas. Il est ému au moment de franchir cette ligne d'arrivée. Podium pour Paul Sexas, la meilleure performance cette saison pour Paul Sexas. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel et Paul Sexas, c'est tout simplement une performance exceptionnelle pour le Français.
Maria Azé, Christophe Cessieux et Jérôme Pinault, commentaire des championnats d'Europe. La semaine dernière, on a vibré, franchement, quand Sexas a décramponné l'Italien dans la dernière ascension. Il s'est invité à la table des grands, en terminant donc troisième de ses Europes. Derrière les monstres actuels, Pogacar et Evenepoel, le Français Sexas, 19 ans à peine, s'attaque au Tour de Lombardie ce samedi. Course à vivre toute la journée sur RMC. C'est la première fois que le phénomène français vainqueur du Tour de l'Avenir s'attaque à un monument du calendrier cycliste. Il va retrouver sur les bords du lac de Côme, et ben les mêmes, Pogacar et Evenepoel. Les GG, je vous pose la question, Sexas au départ du Tour de Lombardie contre Pogacar notamment, mais Sexas, faut-il être patient ou exigeant avec lui en ce moment? J'ai deux patients, Marc Madio et Christophe Cessieux, que t'en passion avec un peu d'exigence quand même, et deux exigeants, Pascal et Sarah. Vous votez sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour l'instant, vous êtes 77% à être plutôt patient avec Paul Sexas. On vous attend au 32-16 et envoyez vos messages.
Mais on gagne que si on vous perdez 1%. Hein.
Voilà. Ouais. Vous allez plutôt en perdre 15, hein, donc
pas. Vous avez vu quand il a dit qu'il avait envie d'en découdre, il les connaît pas. Paul Sexas, tiens, d'ailleurs, c'est bien qu'on s'habitue à savoir. On va l'écouter sur ses ambitions sur cette fin de saison.
C'est quand même bien de pouvoir finir la saison en étant leader. Petit à petit, j'ai pu gravir les échelons et montrer, aussi j'ai progressé. Donc forcément, ça a montré que je pouvais prendre la tête d'un groupe de coureurs d'élite. C'est sûr que c'est fou, surtout pour mon premier monument. D'être cité parmi les outsiders, c'est quand même déjà quelque chose. En tout cas, je suis prêt à me donner à 100% et j'espère que j'aurai la même forme qu'il y a une semaine dans le Val d'Enfer.
On espère qu'il aura la même forme. Avec ce petit écho derrière, est-ce qu'il était peut-être au sanctuaire de la Madonna del Ghisallo?
Tu es allé, toi?
Incroyable, sur le Tour de Lombardie, magnifique, ouais, à l'époque où j'avais un gabarit de cycliste. Endroit iconique, mythique, avec les maillots de Fausto Coppi, des vieux vélos, exactement. Voilà. Le sanctuaire de la protectrice des cyclistes.
On passera Fausto Coppi qui va peut-être être dépassé aujourd'hui, quand même.
Égalé.
Non, dépassé, parce que ce serait 5 victoires d'affilée.
Notre sujet, c'est Paul Sexas. Est-ce qu'il faut être exigeant ou patient avec lui? Vous partez loin derrière. Mm-hmm. Exigeant, Sarah.
Exigeant parce que lui-même, il est dans ses choix, il est dans ses propos, et être exigeant avec le potentiel de Paul Sexas, c'est parce que ça vaut la peine d'être développé, hein. L'exigence, c'est pas une pression négative pour autant, mais c'est une marque de confiance. Elle signifie que le grand, les observateurs croient en lui et qu'on sait qu'il peut aller plus loin. Donc pour moi, exigeant, parce qu'on n'arrête pas de nous ressasser qu'il est bon en montagne, qu'il est bon en contre-la-montre, qu'il est capable de tenir en ligne sur des parcours exigeants. Pourquoi donc exigeant. Mmh. Exigeant, mais ça ne veut pas dire une pression supplémentaire.
Donc exigeant, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans le top 5 aujourd'hui du Tour de Lombardie, qu'il soit aligné au Tour de France et qu'il fasse un truc pour le classement général. C'est quoi l'exigence?
Exigence, c'est faire les bons choix par rapport à son âge et sa carrière.
D'accord. Alors, quels sont les bons choix à faire?
Il le dit lui-même, s'il est au départ du Tour de Lombardie.
C'est pas à nous d'en déterminer des bons choix, Christophe. C'est à son équipe et son entourage.
Il faut être exigeant.
Qu'est-ce que vous voulez?
Je veux rejoindre Sarah, Christophe, sur le fait que exigeant, puisqu'il a été, il se dit que ce garçon est de la graine de champion, et il l'a démontré dernièrement. Donc à partir de là, on ne peut qu'être exigeant avec ce type de coureur.
Vous faites des phrases, vous mettez beaucoup de mots,
on répond simplement à la question, Christophe. Est-ce qu'on veut, Sarah et moi, c'est tenter d'y répondre jusqu'au bout sans que tu nous interromps. Moi je suis impatient avec vous, tu vois.
Eh bien
donc, si aujourd'hui il va autour de Lombardie, Sexas pour porter les bidons, moi très honnêtement je comprendrais pas. Donc l'exigence, ce que j'attends, c'est qu'il soit au fait de la course.
Pascal, il a écrit un bouquin. Pascal,
l'exigence telle que je la conçois concernant ce garçon qui est précoce et qui en plus est repéré comme un talent, c'est que sur le Tour de Lombardie, il donne le maximum pour faire le meilleur résultat possible.
Et ensuite, le foot quand tu parles.
Pour moi, il doit finir dans les 5. En prolongation de ce qu'il a fait, par exemple, au championnat du monde et au championnat d'Europe.
L'objectif, c'est de finir sans doute dans les 5 premiers du Tour de Lombardie, mais s'il ne réussit pas cette performance, ça ne sera pas un drame. Moi, j'ai envie de dire.
Non, pourquoi on est d'accord avec toi.
Je suis plutôt dans la patience, et moi, j'ai envie de lui dire tu as 19 ans. Ne va pas trop vite et fais peut-être les conneries que tu dois faire à 19 ou 20 ans avant de passer à l'étape suivante. Parce que il est très jeune, il est déjà très professionnel et là il est dans la partie la plus linéaire et la plus facile de sa carrière. Il est en progression constante, en développement, en découverte, il avance à pas de géant, mais il faut aussi que il se façonne pour être en capacité d'aborder les difficultés qui surgiront à un moment ou à un autre.
Paul Sexas, quand on lit, on le met à la hauteur des Pogacar, des jeunes, mais ces gens-là, ils n'ont pas pris leur temps, hein. Les Pogacar, ils n'ont pas pris leur temps.
Il faut qu'il fasse deux ou trois conneries pour pouvoir avancer derrière.
Bernard Hinault n'a fait son premier tour qu'à 22 ans.
24.
Cyril a attendu qu'il soit mature pour le mettre au départ du tour.
Il y a quand même une différence.
Si on fait un comparatif, Christophe, on ne va pas comparer.
Il y a quand même un élément qu'il faut prendre en considération.
Pogacar a gagné son premier Tour de France à 21 ans.
Les sportifs d'aujourd'hui. Il a gagné son premier tour à 21 ans.
Les sportifs d'aujourd'hui sont à maturité beaucoup plus rapide. Les sportifs d'aujourd'hui sont à maturité beaucoup plus rapide. Il y a quand même des points de passage qu'il faut prendre en considération. Autrefois, quand Bernard Hinault a commencé à être coureur cycliste, il n'y avait pas de compteur. On comptait les kilomètres sur le bord de la route. On n'avait pas de compteur de vitesse sur le vélo. On roulait avec la montre et on faisait les pancartes à l'entrée du village et à la sortie du village pour travailler un peu le sprint.
Et votre état de fatigue, on ne pouvait pas le mesurer.
Et à cette époque, on était
la préparation.
dans quelque chose d'archaïque.
Bien sûr.
Et à 17 ou 18 ans, quand Bernard Hinault avait 17 ou 18 ans, il était en retard sur ce que fait aujourd'hui un Paul Seixas. Pourquoi ? Tout simplement parce que les sportifs d'aujourd'hui, sont bien dans tous les sports, sont mieux accompagnés.
T'amènes de l'eau à notre moulin, Marc.
14, 15 ans, on connaît les watts, on connaît les zones d'intensité.
Mais
on est capable de mettre.
Tu es en train de venir sur notre terrain, là.
Oui, bah oui, tu viens avec nous, là.
Oui, mais.
On est exigeant parce qu'on peut mesurer tout ça.
Parce qu'on est en capacité aujourd'hui de faire progresser un athlète, qu'il soit coureur, cycliste ou autre, on est en capacité de le faire progresser extrêmement rapidement et de l'amener.
On est en capacité
de l'amener très rapidement à un très haut niveau. Sauf que, il y a quand même un petit truc qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que le sportif, il n'a plus 24 ou 25 ans comme Bernard Hinault il y a 40 ans. Il a 17, 18 ou 19 ans.
19 ans pour sexe.
Et il faut le laisser vivre aussi sa vie à côté de son activité sportive si on veut que ça perdure dans le temps. Parce qu'on voit bien aussi à travers les propos de certains jeunes sportifs, il y a une usure.
Tu veux pas brûler les ailes, c'est ça que tu veux nous dire ?
Moi, je pense que si on veut utiliser pleinement le potentiel d'un sportif aujourd'hui. Oui, il faut aller vite dans le développement. Oui, il faut aller vite dans la formation. Oui, il faut aller vite dans l'entraînement et dans l'appréhension du sport de haut niveau. Mais en même temps, il faut laisser la personnalité se développer et s'installer.
Mais si
il faut
qu'il fasse des erreurs.
La personnalité passe aussi par les erreurs qu'on commet.
Mais quand je dis exigeant, j'ai pas dit nécessairement s'aligner sur le Tour de France ou sur un autre grand tour. J'ai dit exigeant par rapport à la programmation intelligente qu'il doit faire.
Ce que tu mets
Mais je pense que
il faut qu'il soit au départ du Tour l'été prochain. Exigence pour qu'il soit au départ et qu'il se mesure vraiment à ce qui se fait de mieux. Mais patience parce que tu n'attendras pas à ce qu'il joue un rôle pour le classement général.
C'est de se présenter dans une course où tu peux jouer quelque chose. Un Paul Seixas pour moi ne doit pas s'aligner dans une course.
On peut pas parler dans cette émission, quand même. C'est incroyable. On dit un mot et on s'est coupé et on passe la parole à quelqu'un d'autre. Ben, je reviendrai pour parler de Mbappé la semaine prochaine.
Ça y est, Georges, il est de retour.
Pascal, il est de retour. Ensuite, il reviendra dans la course parce qu'on est patient avec lui.
Non, mais ce que Marc a dit, comme toujours, c'est extrêmement intéressant. Ça se rejoint avec nos sports. Nous, ils sont d'une précocité incroyable, ils sont d'une impatience incroyable. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien exprimé, aujourd'hui, les athlètes sont beaucoup mieux préparés que nous l'étions naguère, et ils sont aussi beaucoup mieux préparés et suivis alimentairement. S'ils sont dans le rouge, ils le savent tout de suite. Donc, en fait, on peut limiter les erreurs grâce à ce soutien logistique, humain, qui sont à la disposition des coureurs. Il va donc faire le Tour de Lombardie. C'est un encore une fois, je le répète, un champion en devenir. Et quand j'entends Pogacar, qui a gagné son premier tour à 21 ans, qui a aujourd'hui 26 ou 27 ans, et qui songe déjà à se dire... s'interroge déjà sur sa fin de carrière. On patiente, et c'est que ça, s'il aura 26 ans, qu'il n'aura pas couru, alors si je
coupons les micros de tout le monde sans que tu aies raison cet instant. Christophe Cessieux.
Non, mais.
Bonne réponse.
La patience pour. 19 ans. Évidemment, c'est un génie parce que je pense qu'à cet âge-là, il est en avance sur les trois quarts de tous les coureurs qu'on a connus jusque-là. Mais 19 ans, il n'est pas fini encore, Marc.
Pour moi, il n'est pas encore. Il n'est pas encore fini.
Moi, je le voyais la semaine dernière. Il était en face de moi. C'est un gamin. C'est un ado, quoi. Et alors, il est tout grand, il est tout fin, il a une bonne gueule, il est sympa. Mais t'as l'impression d'être à la sortie du lycée. Ouais, presque.
Quand son premier Tour de France, il est pas beau, il n'a pas l'air d'un adulte non plus.
C'est vrai, mais il a 2 ans de plus. Et je pense que quand je dis patience, c'est patienter ces 2 années-là. Le laisser faire ses expériences, le laisser connaître des illusions parce qu'il va en connaître dans les 2 ans.
Et le laisser lui aussi décider de ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire que.
Le pas l'imposer au départ d'un tour s'il a pas envie de le faire. Mais je pense qu'il a envie d'y aller.
Les feux sont au vert en termes de préparation, en termes de niveau physique, en termes de niveau mental par rapport à l'événement. in fine, c'est lui qui doit décider. C'est lui qui doit décider.
Florent nous appelle au 32-16. Salut Florent.
L'équipe.
Salut à toi. Bon, il faut être exigeant ou patient avec Paul Sexa, selon toi, ça agite tout le monde.
Mais c'est vrai que j'ai entendu pas mal de choses là qui étaient très intéressantes. Moi, je pense que donc déjà le grand public l'a découvert il y a une semaine, on va dire. Les passionnés de cyclisme le connaissent depuis plus de temps. Moi, je pense que il est très jeune. Vous l'avez dit. C'est vrai que l'âge d'or des coureurs a baissé quand même. À l'époque, c'était plus la trentaine. C'est vrai qu'on voit que maintenant. Les grands coureurs gagnent des tours et des grandes courses à 24, 25 ans. Donc moi, je pense que dès maintenant, il faut l'aligner sur des grandes courses, comme le Tour de Lombardie, mais sans lui mettre la pression. Là, il apprend, il est jeune, et je pense que c'est maintenant, je ne sais plus qui c'est qui disait, s'il ne court pas maintenant, il ne courra jamais en fait. À 26 ans, il n'aura pas fait de course. Ouais. Moi, je pense que maintenant, il faut qu'il fasse des grandes courses, qu'il prenne de l'expérience,
mais il est là.
Qu'il tente des choses. Il a un talent exceptionnel, on l'a vu. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, tant pis, ça lui servira pour plus tard.
Il faut qu'il se frotte, peut-être surtout au meilleur, par exemple, à Pogacar aujourd'hui. S'il part Pogacar devant lui, il va le suivre, Paul Sexas ?
Je ne suis pas que je vais essayer de suivre Pogacar. Après, entre essayer de le suivre et réussir à le suivre, il y a quand même une grosse différence. On sait qu'il est au-dessus du lot, donc dans tous les cas, je donnerai tout sur le terrain. Et peu importe pour quelle place je me battrai jusqu'au bout.
Je me battrai jusqu'au bout, même face à Pogacar.
J'ai trouvé d'ailleurs sa façon de courir la semaine dernière, c'est ça qui m'a fait plaisir. C'est qu'à la différence même d'un Remco qui regardait son capteur de puissance et qui s'est dit oulala, je suis dans le rouge, je vais pas suivre Poggi.
Plus à l'instinct.
Le Sexas, il a pas regardé son capteur, ouais. Et dans la dernière montée, il avait l'italien, il arrivait pas à décomponer le sparadrap italien. Ouais. Et bien il en a remis. Il était dans le rouge, il était au-delà de tout, mais il a couru à l'instinct, Marc. Et c'est ça qui fait plaisir. Ouais.
Il a couru à l'instinct, mais il utilise bien les moyens à disposition pour gérer son évolution quand même. Hein.
Ouais. Ouais. Merci Florent d'avoir appelé au 32-16. Vous êtes nombreux hein, sur notre WhatsApp. Paul Sexas doit être au départ du Tour d'Italie, nous dit Romain. Eric nous dit il ne faut pas le cramer trop vite. Il faut qu'il voit s'il arrive à suivre le rythme de Pogacar. Allez, dans quelques instants, le grand dossier des GG. Il attend depuis un petit moment. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les entraîneurs? On attend Marc Madio et Pascal Duprat. C'est une question de survie pour eux. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski et Marc Madio qui est en train de nous raconter les routes italiennes alors que le Tour de Lombardie est aujourd'hui. T'en parles avec des étoiles dans les yeux. Milan-San Remo notamment.
Milan-San Remo, ouais. le dernier virage du bas de la descente du Poggio, quand t'es coureur, quand t'es dans la course, c'est mythique. Mm. Et quand t'es coureur et que t'es largué et que tu es hors course, moi je me dépêchais d'aller au bas du Poggio pour voir le mec qui allait gagner Milan-San Remo. Le regard, j'ai en mémoire le regard de Moser, j'ai en mémoire le regard de Saroni et des autres qui passaient pour aller sur la Via Roma. Mm. La Via Roma à San Remo, c'est un endroit mythique. Et quand on y va en temps normal, c'est très quelconque.
Exactement. Mais c'est ça la magie du vélo qui arrive à transformer des lieux en endroits mystiques, pour en dire encore plus que mythiques. Dans un instant, les GG vous font le programme du week-end. Hein, c'est la zapette des GG. Mais tout de suite, le dossier des grandes gueules du sport. Aura-t-on encore besoin des Didier Deschamps, Pascal Duprat ou encore Marc Madio? Dans quelques années, même s'ils ont eu des grands moments, des grands discours, mais avec une intelligence artificielle finalement, est-ce que ce serait pas pareil?
Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Moi je vous aime, vous comprenez, je vous aime. Et ce qu'il y a de bien, et je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. Et ça c'est magnifique, parce que l'un pour sûr, ce qu'on voit ce sont des gens qui vous aiment. Allez Thibaut, allez mon grand, t'es grand. T'es très grande aujourd'hui. Allez mon grand.
Ah,
ouais,
ça
mec, ouais mec,
de...
ouais mec, ouais ouais. Ah,
ça te fout les poils, hein.
RMC.
Ça a quand même moins de saveur.
Ah, ça met les poils, hein.
Ah ouais. Là, je crois qu'on a répondu à la question.
Ça te met la fièvre, ouais.
Franchement, Marc, l'intelligence artificielle, non. T'es grand, t'es très très grand.
On peut arrêter le débat.
Ouais,
la messe est vite.
C'est un sujet qui a attiré notre attention il y a quelques semaines. Alors, Une franchise américaine de baseball en ligue mineure, les Baylors d'Oakland, ils ont joué une rencontre avec une intelligence artificielle comme entraîneur. Je vous explique. Alors en fait, c'est une IA qui a décidé quel joueur titulariser sur le terrain, quel joueur remplacer comme lanceur, c'est-à-dire ils sont fatigués au bout d'un moment, ou comment positionner la défense. Tout cela en s'appuyant sur des données historiques et en temps réel concernant les joueurs et la météo. C'est en réalité l'entraîneur habituel, donc un humain, qui tenait une tablette sur le bord du terrain avec toutes les décisions de l'IA dessus. L'équipe a gagné. Un match de baseball guidé par l'IA, faut-il imaginer l'intelligence artificielle un jour remplacer les coachs dans le monde du sport ? Clément Brossard a mené l'enquête pour les GG du sport, qui sont inquiètes, Clément.
Salut Georges, salut tout le monde. Ouais. Il a été énormément teasé hein, ce sujet. Ah bah oui, ce matin, je vois ça.
Ah mais là, on est en train de parler peut-être de l'obsolescence programmée de Marc Madio et Pascal Duprat. Hein. Donc, est-ce que c'est le monde qui nous attend, mon cher Clément ?
Alors, une équipe guidée intégralement par l'IA, on a voulu savoir si pour les spécialistes de l'intelligence artificielle, il y avait une forme de logique ou si c'était finalement complètement lunaire. Eh bien, Erwan Benek est membre de l'entreprise Sportech. Écoutez-le.
Moi, je pense que c'est un coup marketing, en vrai. Néanmoins, on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives, soit dans des clubs, soit au sein des fédérations pour intégrer l'IA, soit sur des plans d'entraînement, ou soit pour planifier des compétitions ou quoi que ce soit. L'avantage d'une IA, c'est qu'elle peut superposer à l'infini un tas de données pour sortir des insights que le cerveau humain n'aurait pas été en mesure de trouver, tout simplement.
L'IA est devenue un élément presque incontournable dans certains secteurs où la data est omniprésente. Le cyclisme, par exemple, Marc. Frédéric Grappe, directeur de la performance du Team Groupama FDJ.
Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, en fonction des conditions climatiques, comment tous les coureurs de mon équipe réagissent. L'IA, à partir des modèles, avec toutes les datas qui sont moulinées, va pouvoir voir pour tel coureur, c'est une baisse de performance de temps en moyenne. Pour tel coureur, ça bouge moins. L'humain n'est pas capable, avec toutes les datas sur plusieurs années, de pouvoir aller faire toutes ces statistiques. C'est pas possible. Donc, je pense que l'IA va prochainement nous aider, à un moment donné, à mieux cibler certainement les compositions d'équipe par rapport aux profils de course, aux concurrents potentiels, etc., etc.
Mais l'IA connaît aussi ses limites de management dans le sport individuel comme dans le sport collectif. Et pour l'entraîneur de basket, Jean-Denis Choulet, eh bien, l'imprévisibilité du sport en est une.
L'ambiance, l'environnement permettent au coach justement de trouver des solutions qui sont du moment. Quelquefois l'intuition, quelquefois l'ambiance de la salle, le climat quelquefois hostile, des choses comme ça que l'intelligence artificielle ne peut pas prendre en compte. Moi j'aime bien que le coach soit responsable et qu'il porte la responsabilité de la réussite ou de l'échec d'une équipe.
Et puis pour l'ex-sélectionneur du 15 de France que vous connaissez tous, Philippe Saint-André, l'IA serait incapable de reproduire la relation qu'un manager entretient avec ses joueurs.
À la mi-temps, il y a aussi une connexion, un message. Dans un vestiaire, tu vois mal un mec appuyé sur un ordinateur et quelqu'un te parle. Enfin, il y a de la stratégie, il y a de la technique, mais il y a aussi cette connexion corporelle, ce message qui est dans les yeux. Et ça, ça n'a pas de prix.
Bon, on peut se le dire, les GG, le coach humain devrait encore avoir de belles années devant lui.
Clément, toutes les personnes qu'on a écoutées sont des humains, hein.
Exactement.
D'accord, ouais. C'est garanti.
C'est l'IA qui m'a proposé de prendre ces personnes.
Saint-André n'a pas toujours été humain.
Bon, l'IA va-t-elle remplacer les entraîneurs ? On va évidemment d'abord écouter ceux qui sont peut-être en danger de mort. Pascal Duprat et Marc Madio. Pascal, l'IA, bon. Est-ce que tu as peur de l'IA ?
Non, c'est pas l'IA qui m'empêche de bosser en ce moment, hein, donc non, j'ai pas peur. En fait, ça dépend comment tu veux l'employer. Si tu veux l'employer pour remplacer les humains, alors je pense qu'ils font fausse route. Et c'est certainement pas là où l'IA est prépondérante. C'est une aide à la performance, et chacun doit le comprendre comme ça. Aujourd'hui, ne pas servir des données qui nous sont fournis grâce à l'IA, c'est faire une erreur. C'est pas faire correctement son métier, parce que comme certains l'ont dit, c'est un gain de temps. Ça permet de regrouper des données dans un temps record. Donc c'est bien une aide à la performance. C'est bien une aide aussi à l'entraîneur qui est chargé de coacher ou de diriger ses joueurs. Par contre, là où l'IA ne remplacera jamais l'humain, c'est dans le côté proximité, relationnel, émotion que l'on transmet au travers du discours. Même s'ils vont améliorer les voix de l'IA, ça sera jamais quelque chose de naturel, de spontané. L'empirisme du coach, quand par exemple l'IA vous dira un jour il faut sortir ce joueur à la 82e minute, vous l'avez senti en tant que coach qu'il faudrait peut-être le sortir parce qu'il est cuit, mais vous avez tout un tas de données irrationnelles au travers de votre empirisme qui vous disent Pascal, non, ne le sors pas, et il se trouve qu'une minute
petit deux minutes après. En fait. Alors qu'il est cuit, il marque. Donc, on ne pourra jamais remplacer le contact et la proximité entre l'homme et l'attaque.
Vous, Boli, en tout cas, Bernard Tapie, en finale de la Ligue des Champions. Jour.
Ouais, on connaîtra pas ça. Je pense qu'on connaîtra pas ça, mais je pense que d'ici 20, 30, on arrivera à fabriquer des personnages qui seront un mélange de Duprat, de Madiot, de Luis Enrique, de Saint-André, de Galtier. Et tout sera et on aura des personnages qui feront face. Qui feront face aux joueurs et même peut-être qu'ils seront pas humains mais qui
il y a pas de limite,
leur ressembleront
en fait.
Alors ça voudra dire Christophe qu'on aura transformé l'humain aussi,
mais ça va à une telle vitesse.
Il y a des IA acteurs, ministres.
Ben oui, moi j'ai un copain qui a pris l'IA en payant et il discute avec une jeune femme mais non, pour l'instant on fait que discuter et je te jure tu peux avoir une discussion construite, elle réagit à tes blagues ou à ton. Non, mais je te jure.
Il n'a pas songé d'aller voir un psy, ton copain, non ?
Je n'y croyais pas il y a deux ans ou il y a trois ans, mais quand tu vas vraiment au fond du truc, aujourd'hui, ça fout les jetons. Je te jure que ça fout les jetons.
Alors, moi, je pense que ça va faire ça va servir à faire du nettoyage. Parce que.
Les mauvais entraîneurs.
Parce qu'il y a des entraîneurs.
Ah non, ça va les aider.
Non, mais il y a des entraîneurs qui entraînent.
Tout le monde est bon avec l'IA. Avec l'IA, tout le monde est bon.
Demande au prof, il corrige des copies parfaites.
Il y a des coachs qui coachent uniquement en utilisant des chiffres, des statistiques pour se donner, de la crédibilité. Mais non, parce qu'en fait, ces gens-là, finalement, c'est ce qu'on est en train de dire. Ce que Pascal disait, qu'il y a un moment, le leadership, la motivation, la gestion des imprévus, ça fait partie des qualités d'un coach. Et donc, ceux qui ne se servent que d'une analyse purement analytique, chiffrée, qui voit l'entraînement ou le coaching comme une modélisation scientifique, ben ces gens-là, ils vont se faire remplacer. Ils vont se faire remplacer parce qu'en fait, on va vers une hybridation homme-intelligence artificielle. Donc en fait, l'humain, le coach humain qui, lui, a son expérience d'entraîneur...
sera plus valorisé, peut-être.
Et ben, en tout cas, il va avoir des données supplémentaires. Il va pouvoir se servir des données supplémentaires pour avoir une vue plus grande. Donc, oui, ça va faire du nettoyage pour ceux qui se prennent, qui se croient entraîneurs et qui ne le sont pas.
Marc, on t'a pas entendu encore. Est-ce que tu as peur d'être remplacé ?
Non, mais l'intelligence artificielle, les données, les datas qu'on a aujourd'hui à notre disposition sont utilisées. Il faut les utiliser. Mais il y a quand même un truc à un moment qui arrive. C'est que j'ai pas encore vu un ordinateur me donner la chair de poule et me faire vibrer.
Ah oui. Oh, si, tout à l'heure, on a failli.
Non, on était loin quand même. Donc... Le sport, la compétition, c'est d'abord et avant tout
des émotions,
et un affrontement entre des humains. Et si on transforme l'humain en jeu vidéo ou en simple utilisation d'un ordinateur. Ben, moi, je vous dis tout de suite, je coupe mon ordinateur et je vais à la pêche.
À Pékin, ils ont fait une course avec des robots, il y a quelque temps.
Mais franchement, t'as envie de regarder une course avec des robots?
Mais ce que je veux dire, c'est que...
Le sport, c'est autre chose. C'est l'homme, c'est le cerveau qui se compare à quelqu'un d'autre, qui s'affronte et qui met de l'émotion. Le sport, c'est de l'émotion. Qu'est-ce qu'on retient du sport? Retient parfois les résultats. On est champion du monde, on est champion de France, on est ci ou on est ça. Mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est l'émotion qu'on va transmettre.
Ou que le sport nous donne.
S'il n'y a pas ça, ça n'a plus d'intérêt.
Et en tant que débatteur, est-ce que vous pensez que vous pourriez être remplacé un jour par quelqu'un?
Faisons l'expérience.
Mais c'est exactement ce que j'allais proposer.
Je ne suis pas sûr que tes taux d'audience vont être remarquables.
De faire venir
une intelligence artificielle qui réagit à nos propos.
Moi, j'ai envie de voir des erreurs, j'ai envie de voir des gens qui se trompent, j'ai envie de voir des gens qui s'engueulent.
Ah ouais, non, mais moi, je ne fais pas beaucoup d'erreurs, par exemple.
Mais tu sais, je dis. Les intelligences artificielles sont imparfaites aujourd'hui. Par exemple, quand vous posez des questions à ChatGPT,
ChatGPT,
vous lui dites attends, mais c'est pas Marc Madiot qui a gagné en 1975 Paris-Roubaix.
Ils sont pas très forts en sport, ils sont pas terribles.
Non, parce que moi, quand je tape mon nom, j'ai fait du badminton.
Clément, qui est devenu notre spécialiste IA.
Pour avoir parlé avec des spécialistes pour le coup, il me disait qu'il y a la variabilité qui est aujourd'hui le cœur du débat un petit peu de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a commencé à intégrer des facteurs humains. humain dont ton ami qui parle avec une connaissance de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va être capable de rentrer dans la relation et d'être cohérent tout à fait sur les propos. En revanche, la variabilité, elle, est plus incertaine et trop incertaine encore. Ce qu'on dit pas,
c'est-à-dire la variabilité.
Par exemple, ce qu'on dit pas sur le côté du baseball avec cet entraîneur qui a fait gagner son équipe grâce à l'intelligence artificielle.
Oui, mais alors, comment ça se passe pour celui qui a fait perdre?
Bah lui il était humain.
Ouais. Oui, mais alors attends, on peut pousser le débat un peu plus loin, se dire voilà, l'intelligence artificielle, t'as deux équipes de football qui utilisent chacune l'intelligence artificielle. À la sortie, qui gagne et qui perd.
Il y en a toujours un qui va gagner et l'autre qui va perdre.
Le plus fort. Donc c'est un ordinateur qui va gagner par rapport à un autre ordinateur.
Bah sur le côté tactique, c'est ça. En tout cas, là où le coach a dû intervenir, parce qu'il est intervenu quand même dans sa composition, il a pas laissé faire totalement l'ordinateur, c'est qu'un joueur était malade. Mmh. Et ça, l'IA a pas pu le mesurer. Il y a quand même certains trous d'air.
Mais pour l'instant, il faut voir à l'avenir. Qui aurait imaginé il y a quelques années que Garry Kasparov serait battu par un ordinateur aux échecs, hein, par exemple Deep Blue, rappelez-vous. Donc l'évolution amène
l'évolution
en permanence.
Est tellement rapide que...
Mais là on est sur des probabilités. Et les probabilités d'un jeu d'échecs, elles sont structurées. La probabilité qu'il y a le nuage qui va passer, qui va pleuvoir et qu'il faut changer les pneus.
Justement, on aura des données un petit peu partout qui te dit qu'on ne sera pas capable de maîtriser tout ça.
Hier, on a fait.
Regardez la F1 aujourd'hui. Mmh. Autrefois, il y avait un combat mental et d'homme à homme entre Prost et Senna. On regardait le Grand Prix de la première à la dernière seconde. On était sous tension, on était sous pression. Aujourd'hui, un Grand Prix de Formule 1.
C'est une course électronique.
Regarde le premier tour.
Et le dernier.
Je vais faire la sieste. Et si je me réveille à temps, je regarde l'arrivée.
C'est parce que t'as vieilli, Marc.
Non, j'ai pas vieilli. Non, pas du tout. J'ai pas vieilli. J'ai juste envie de vibrer.
Mais moi, je suis comme
j'ai juste envie de vibrer. J'ai juste envie d'avoir la chair de poule. J'ai juste envie d'avoir le nœud à l'estomac.
Alors je prends le contre-pied.
Allez,
je me désintéressais à la MotoGP et voilà pas qu'aujourd'hui, eh bien alors que c'est bourré de technologie aussi, ça me passionne plus.
Oui, mais ça c'est les gens à la retraite,
Vous êtes grand, vous êtes très très grand, comme disait.
Oui, mais tu vois par exemple, ça, vous êtes grand, t'es grand aujourd'hui, t'es très grand aujourd'hui.
Oh là là, c'est
moi. Et si j'ai un ordinateur devant moi, je le fais plus ça. Non, c'est fini.
Oh là là, c'est bon.
On a perdu, Marc.
Je suis là.
Merci
Clément.
Je pense que c'est un sujet. J'aimerais bien qu'on va développer un jour un vrai mec qui réfléchit à l'avance sur ce que sera l'intelligence artificielle et ce qu'elle va pouvoir faire justement dans le monde du sport ou dans le monde des médias, débattre d'un sujet sportif.
Non mais franchement, je reviens sur mon t'es grand, t'es très grand. Si j'avais eu un ordinateur devant moi qui m'avait guidé,
Mais l'IA, elle sait t'imiter aujourd'hui, elle sait aussi.
Non mais franchement, je me remets en situation avec un ordinateur qui me dit Marc, tu dois dire à ton coureur qu'il a deux longueurs d'avance.
Ah oui. Il a une chance de gagner.
Non mais franchement.
Non mais peut-être que l'IA mettra les intonations après.
Les intonations. Les sports reviennent dans quelques instants. Elles sont pas artificielles, elles sont en chair et en os. À tout de suite sur AMC.
RMC jusqu'à midi.
J'ai un avis, mais je.
Allez. Les grandes gueules du sport.
Non, mais on peut pas parler dans cette émission, quand même. Incroyable. On dit un mot et on se fait couper.
Il est là. Ça y est, il est de retour.
Georges Quirino.
Lui, il n'est pas artificiel, hein. Il est complètement présent et bien de retour. Non, sois pas si dur avec toi-même. Dans un instant, on va ouvrir le vestiaire. Comment aborder une compétition, la course, le match d'une vie. Vous avez plein de choses à nous raconter à ce sujet-là. En fin d'émission, vous participez au jeu-jeu également. Je vous rappelle, envoyez sport au 7-32-16. Mais tout de suite, ce qu'il faut absolument suivre ce week-end, c'est la zapette.
C'est la zapette des GG.
Je vous passe la zapette un par un. Sarah Pitkowski, ce qu'il faut absolument écouter ce week-end en sport pour toi.
Écouter ou regarder, non, pas très longtemps. Juste après les grandes gueules du sport, à 13h, la demi-finale d'Arthur Rydderknecht. Sa première demi-finale en Master 1000 face à Medvedev. C'est juste
la finale qui va nous intéresser surtout.
Oui, mais pour aller en finale, il faut battre Medvedev en demi. D'abord Medvedev. C'est juste un tournoi extraordinaire qu'il a fait. Il n'avait jamais passé plus de deux tours dans un Master 1000. Il a accroché 4 top 20. Une leçon face à Zverev, une leçon face à Félix Auger-Aliassime. Le rêve peut aller jusqu'au bout.
pour Arthur Hinderknecht.
Le rêve, c'est qu'il affronte son cousin qui est de l'autre côté du tableau,
qui joue Djoko.
Et si les deux garçons se retrouvent, c'est des cousins, mais ils sont comme des frères. Hein. L'histoire, elle est géniale.
Exactement. Donc, et en plus, ils ont été ensemble en université. Ouais.
Depuis quelques instants, c'est parti à Shanghai. Djokovic mène 1-0. Il a breaké Vacherot sur sa première mise en jeu. Marc Madio, je te passe la zapette. Qu'est-ce qu'il faut absolument suivre ce week-end pour toi?
Paris-Tours, la course des vignes.
Ah oui, pour ça?
Bah oui, pour ça, parce que le cyclisme a cette chance de pouvoir coller à ce qui se passe dans la vie et dans la société. Alors on l'a vu, ça a été compliqué avec les manifestations, mais là aujourd'hui, on va voir les beaux vignobles tout en faisant une course de vélo. C'est quand même pas mal. Et en plus, on va saluer une grande carrière, celle d'Arnaud Démare, qui met un terme à son activité professionnelle et qui mérite un énorme coup de chapeau.
C'est un coureur que tu as lancé, évidemment. Oui. C'est un coureur pour lequel tu as beaucoup d'affection.
Oui. Et qui a fait... Et j'aurais voulu terminer sa carrière avec nous d'une autre manière. Mais c'est la vie.
Arnaud Démare. Vous êtes plus fâché?
On se parle.
97 victoires, hein, je vous rappelle, pour Arnaud Démare. 34 ans, donc sprinter d'Arkea Baby Hotel. Deux fois vainqueur de Paris-Tours.
Ça va être difficile de regagner, mais il va y avoir deux fois vainqueur de Paris-Tours, vainqueur sur le tour avec le maillot de champion de France, triple champion de France,
Milan-San Remo,
les 4 jours de Dunkerque. Quand on regarde son palmarès, j'en profite que j'ai la parole pour dire il n'a pas été toujours traité à sa juste valeur par une partie des médias. Voilà.
Arnaud Démare, je me rappelle, on avait fait un reportage sur lui quand il avait été champion du monde espoir à Copenhague, on l'avait suivi derrière.
On attendait de Démare qu'il soit
qu'il gagne
et qu'il gagne 3-4 étapes d'affilée sur le Tour de France comme les grands sprinteurs. Et c'est peut-être ça qui lui a manqué, mais bon, c'est vrai qu'il a un palmarès exceptionnel. Quoi.
Arnaud Démare, la dernière, mettons du respect sur son nom, nous dit Marc Madio avant.
Du respect, de l'admiration.
Son dernier.
Et merci.
Voilà, et il sera avec nous, a priori, à Arnaud, demain dans Marteau Time.
Je vais la virer quand
revenir
même.
Sur.
Je vais pas virer, non.
Ah, Christophe, il est insupportable.
Il est terrible, il est infernal.
Ah ouais, franchement, il est revenu là.
Il a peut-être dû retourner au Brésil.
Le mec, il est là.
On peut pas avoir le robot Cessieux plutôt.
Il est peut-être. Ouais, on va prendre le robot.
Christophe Cessieux, le vrai. Je te passe la zapette.
Alors moi il y a deux trucs, c'est cet après-midi qui va être magique, magnifique. D'abord il y a le Tour de Lombardie, parce que Paris-Tours j'adore, mais le Tour de Lombardie c'est quand même encore un niveau au-dessus. Et la classique des feuilles mortes, ça va être génial. Peut-être c'est que ça, c'est enfin Pogacar. Voilà, il y a plein de trucs excitants.
Non, mais toi,
j'espère.
Toi c'est quoi ta zapette?
Mais alors le truc c'est que moi tu sais, je vais me mettre dans mon studio, je vais regarder le Tour de Lombardie sur un écran là, celui-là.
Ouais.
Et sur l'autre, je vais regarder Stade Français La Rochelle.
Bah voilà.
Magnifique affiche cet après-midi dans le top 14. Bien mieux que le Toulouse-Bordeaux qu'on nous revend, mais il y aura plein d'absents. Là, cet après-midi, c'est un vrai match entre deux clubs.
La zapette, c'est pas aussi pourrir la zapette des autres.
Hein. T'as mon poster dans ta chambre, Christophe, non?
Parce que Pascal Duprat, ta zapette,
je ne peux pas.
C'est pas possible.
Stade Français La Rochelle, 16h35 à suivre sur RMC pour Christophe. Et donc je te passe la zapette, Pascal.
Oui,
donc,
toi, c'est je vais être beaucoup plus bref. Je vais être beaucoup plus bref que tout le monde, parce qu'on me l'a demandé. Donc je vais être très bref. Et en plus, Christophe, il me casse mon truc. Donc 21h05.
C'est écrit sur le conducteur et il t'a pourri.
Quand vous en aurez fini de regarder tout ce qu'il y a à la télé aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain 21h05. Les deux meilleures équipes du championnat de France qui se rencontrent pour la première manche de la 6e journée du top 14. Tombe sous le sens. Merci Christophe.
À suivre en intégralité en plus sur RMC demain soir, Stade Toulousain. UBB. On va largement en parler demain de ce Stade Toulousain UBB. Il est terrible. Allez, dans quelques instants, on va ouvrir les portes du vestiaire. Vous allez nous dire comment préparer un grand match, une grande compétition. Une grande émission, Christophe Cessieux, par exemple, cet après-midi, puisqu'il s'est lui-même annoncé sur le programme de l'après-midi. C'est ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On revient dans quelques instants dans les grandes gueules du sport pour la dernière heure. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.